La main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour très chère Karine, bonjour à tous. On marque le côté crescendo.
Oui, exactement. J'apprécie.
Bientôt il y aura une bise en direct. C'est au printemps, Alain, que fleurit l'amélanchier du Canada. Vous m'avez dit hier que le CH c'était souvent un Q, donc on dit amélanchier ou amélanchier du Canada?
Je redoutais
que vous me posiez la question. Et ben, vous allez comprendre, le nom vernaculaire de cette plante est amélanchier. Vernaculaire, c'est le nom général, le nom français, le nom botanique, on pourrait dire le nom latin de cette plante, s'écrit de la même façon. Doit-on dire dans ce cas précis amélanchier ou amélanchier? Là, j'ai un doute. Par contre, en Provence, où la plante était cultivée depuis très longtemps, on dit amélanchier. Bon. Ah, donc, alors, si vous le permettez, nous continuerons à dire nous amélanchier.
Allons-y.
Ça m'arrange quand même.
Et donc, cette plante, alors est-ce du Canada?
Oui, c'est une plante que j'aime beaucoup, qui se couvre de fort jolies fleurs blanches qui embaument merveilleusement. Viennent ensuite des petits fruits jaunes, puis pourpres, que les Canadiens d'ailleurs appellent les poires sauvages. Ne vous y trompez pas, ça ne ressemble pas du tout à des poires, ce sont des petites baies qui font en moyenne 1 cm de diamètre. Alors le goût de ces fruits est quelconque, certains aiment et en font des confitures, d'autres ont droit de ne pas aimer, c'est mon cas, car je les ai goûtés, et moi, à titre personnel, je préfère laisser les oiseaux venir s'en délecter. Je trouve un petit peu triste d'ailleurs aujourd'hui qu'on ne pense pas davantage aux oiseaux dans les jardins et qu'on arrête de mettre des filets pour les empêcher de se nourrir. Il n'y a rien de plus beau que des petits oiseaux dans un jardin.
Oui, on connaît votre amour pour les arbres et pour les oiseaux, Alain. Est-ce qu'il est de culture facile dans nos jardins?
Même chez Éric Delvaux, cette plante vivrait sans aucun problème.
C'est pas la main verte.
Non, je vous taquine. Il supporte le froid jusqu'à moins 30 degrés. Il aime le soleil et il tolère la mi-ombre. Et il se plaît simplement dans les terres humides. Attention par contre, il déteste vraiment, vraiment la sécheresse. Donc dès que vous en avez planté un dans votre jardin au printemps, le plus simple est de pailler le sol pour conserver la terre humide.
Mm-hmm. Et depuis quand est-ce qu'on en a en France métropolitaine?
Les fiches sont certaines. Il a été introduit du Canada en 1623. Et depuis, on en voit un peu partout.
Alain Baraton, vos réponses aux auditeurs et auditrices. Pierre vient d'acheter un rosier en motte pour l'installer sur mon balcon, dit-il. Comment bien lui faire passer la fin de l'hiver?
En le plantant en pot, parce que j'en déduis que s'il l'achetait en motte, c'est qu'il faut maintenant le mettre en pot. Mais le rosier est une plante qui résiste au gelé. On le plante dans un pot maintenant. Logiquement, il n'y aura pas de problème. On est déjà en février. Il peut encore geler, bien entendu, mais logiquement, une plante, un rosier en pot sur un balcon, peut-être.
Ça résiste très bien.
Voilà, logiquement, il n'y aura pas de souci.
Okay. Patrice a acheté une maison où pousse un mûrier plus que centenaire, écrit Patrice. Ce mûrier a toujours été taillé en hiver. Dois-je impérativement poursuivre cette taille annuelle en hiver?
Non, c'est un petit peu comme mes cheveux. Ma maman me les coupait régulièrement. J'en suis arrivé à un stade où c'était plus une obligation.
Un rasoir suffira.
Oui, voilà, tout à fait. Il en est de même pour le mûrier. À une petite différence, c'est que quand l'arbre a été taillé, structuré, il risque de développer des branches de manière un petit peu particulière. Donc, on le surveille. Les branches inesthétiques ou qui vont se développer trop droit ou parallèles, on les coupe, mais on lui redonnera au fur et à mesure des années qui viennent un petit coup de sécateur. Et avec le temps, mais beaucoup de temps, le mûrier va peut-être reprendre l'aspect qu'il avait il y a longtemps s'il n'avait jamais été taillé.
Un problème chez Liliane. À la suite de gros travaux, écrit-elle, une pelleteuse a étêté mon albizia planté il y a 3 ans. Il n'en reste qu'un petit morceau. Que peut-on espérer?
Pas grand-chose, parce que s'il en reste un petit morceau...
C'est quoi déjà cette plante-là?
L'albizia, c'est une plante, on l'appelle également l'arbre à soie ou joli brissin. Mmh. C'est une plante qui fait des petits pompons roses et qui ressemble un petit peu, mais de très très loin, au mimosa, mais avec une floraison jaune. On le voit surtout dans le sud de la France. C'est un arbre assez fragile qui a quantité de problèmes et avoir un albizia étêté par une pelleteuse, je crois qu'honnêtement...
Il faut lâcher l'affaire.
On peut le tailler très court, il va peut-être redémarrer sous forme arbustive, mais bon, c'est la seule chose que l'on peut faire.
Le pommier de Roger. Roger a constaté qu'il y avait un trou dans le tronc de ce pommier, avec de la sciure d'ailleurs au pied de l'arbre. Pourrait-il s'agir de la zezère, demande-t-il. Il précise qu'il a pris un fil de fer, il en est ressorti mouillé et sans chenille. Alors qu'est-ce qui se passe?
Et vous l'avez bien prononcé, pas de cheveux sur la langue. Zezère s'écrit bien avec 2 Z. C'est une petite chenille verte, assez rigolote, qui est xylophage. Elle se nourrit du bois, donc elle fait des galeries. Et l'une des seules méthodes que je connaisse pour détruire la zezère est effectivement d'enfoncer un fil de fer. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas.
Donc que faire là pour l'instant?
Recommencer, mais c'est mal parti. Et de toute façon, la plante à l'intérieur va continuer à pondre et les dégâts vont être absolument énormes.
Alain Baraton, un dernier conseil avec un livre.
L'origine du monde ou l'histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. Un ouvrage admirablement écrit par Marc-André Solos. Il connaît vraiment son sujet. Les illustrations intelligentes, les dessins sont signés d'Arnaud Rabellan. C'est publié chez Actes Sud. Un ouvrage intéressant, savant, mais vraiment passionnant à lire.
Le titre, L'origine
du monde.
Rien à voir avec Courbet. Merci Alain Baraton et à samedi.
À samedi.